Silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Ça va. Et vous, nos chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, vous qui avez la gentillesse de nous recevoir chez vous, là, comme ça, alors qu'on n'a même pas pris de rendez-vous. Enfin si, c'est une sorte de rendez-vous, mais pas vraiment. Ah oui, le rendez-vous, c'est quand on va frapper à la porte. Bon, ben là, je frappe sur le micro, toc, 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 et puis voilà. Et j'entre, nous entrons. Ben, on va commencer justement, parce qu'ils sont gentils, nos auditeurs. Alors, on va commencer par une comédie. Oui, allez, il n'y en a pas beaucoup, donc on va commencer par au moins une comédie. La bonne épouse, ça s'appelle. Oh là là, moi, je me suis sentie visée, je me suis dit, mais ça veut dire quoi encore, ça? Pas toi Damien évidemment, si c'était le bon époux, mais c'est la bonne épouse, c'est de Martin Provost, qui est un acteur, réalisateur, scénariste français. Voilà, il a déjà eu pas mal de prix, cet homme-là, 3 ou 4, il a eu plein de nominations, il a 62 ans. Ah mais oui, justement, pour le situer un peu, il avait eu quand même en 2008 le César du meilleur scénario original pour le film L'année... attendez, non, c'est le meilleur fils du meilleur... attends, c'était quoi? Non, je suis en train de me... Ah oui, c'était Séraphine, le film. Le meilleur scénario pour Séraphine. Alors, c'était avec Yolande Moreau, qui est extraordinaire. Yolande Moreau, on l'adore, évidemment. Et c'était l'histoire... D'ailleurs, c'était une sorte de biopic. Hein, c'était l'histoire d'une femme peintre qui est femme de ménage et qui peint divinement, voilà, Séraphine. Ça, il méritait hein, son César, ça, c'est clair. Et puis, il avait eu aussi... Ah oui, il a été aussi... il a eu un prix aussi pour Sage-Femme, qui est sorti en 2017. On en avait parlé avec Catherine Deneuve. Et Catherine Fraud, avec les deux grandes Catherine, ces deux grandes comédiennes, c'était quand même là le Swan d'or hein, du meilleur film. C'était quand même, c'est un très beau film, Sage-Femme. Mes chéris, si vous ne l'avez pas vu et si vous pouvez trouver un DVD pas trop cher, prenez-le, vous verrez. C'est super, c'est un film formidable. Moi, j'ai le DVD, bien sûr, vous pensez bien que je l'ai acheté tout de suite après. Et puis, je l'ai regardé déjà 3-4 fois. Et plus je le regarde, et plus je découvre des choses. C'est vrai que c'est avec ces deux Catherine-là, c'est un vrai régal. En tout cas, Martin Provost fait de très beaux films. Alors, La Bonne Épouse, c'est quoi? Ben, c'est tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter. 2 points. C'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette van der Beek dans son école ménagère.
Alors, faut rappeler quand même que ça se passe à la fin des années 60.
Tout à fait. Il y avait encore des écoles ménagères qui ont disparu, d'ailleurs, depuis. Ces certitudes, les certitudes de Paulette, vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre? 2 points d'interrogation, là, quand même. Hein. Alors, effectivement, comme disait Damien, l'intrigue se situe entre 1967 et 1968. Parce qu'après 1970 et 1971, toutes les écoles ménagères ont disparu. Là, ça, c'était... Fallait le savoir, parce qu'effectivement, moi, je me souviens d'avoir entendu parler de ces écoles ménagères. Je ne savais pas qu'il n'y en avait plus. Là, je l'ai appris. Alors, il y avait quoi? Ben, il y en avait énormément à l'époque. Hein. Il y avait des grandes, des petites. Il y avait quelques-unes qui étaient bourgeoises. Il y en avait des rurales aussi. Et oui, des écoles dites rurales, puisque la France était à cette époque-là à 30% rurale. Et oui, c'est ça. C'est une donnée, ça, qui est très importante, parce qu'il y avait Paris et la province. Et mai 68 va tout faire voler en éclats. Oui. Et oui, le point de départ, c'est le point de départ d'une formidable prise de conscience qui allait accélérer le mouvement et d'émancipation des femmes. Eh oui, alors donc le film traite de l'émancipation féminine, mais d'une manière plutôt légère, en tout cas plus légère que dans les autres films de Martin Provost. Effectivement, d'habitude c'est un peu plus, plus sombre un peu quand même. Hein, dans ces films, il y a des moments drôles, il y a des moments sympathiques, il y a des moments formidables, puis il y a des moments sombres. Mais là non, c'est léger, voilà, il a fait plus léger. Alors en fait, il a déniché, c'est ce qu'il dit en tout cas, hein, il a déniché à l'INA des documentaires étonnants sur ces fameuses écoles ménagères. Et oui, il se souvient d'ailleurs de sa stupeur quand une présentatrice de l'époque, sosie de Denise Fabre, racontait avec beaucoup de sérieux qu'une repasseuse digne de ce nom ne pouvait terminer ses 2 années d'apprentissage que par la chemise de monsieur, qui consacrait en elle la bonne épouse. On a du mal à y croire quand même, hein. C'est vrai que c'est quelque chose quand même, hein. C'est ouf. Alors, il y a bien eu une époque où l'on enseignait aux jeunes filles à devenir des épouses parfaites. Cette époque est révolue, mais comme nous dit le réalisateur, elle n'est pas si lointaine. Eh non, ça date pas d'il y a 100 ans, hein. C'est quand même assez proche, hein. Bon, ça s'est arrêté dans les années 70-71, j'imagine, on n'est qu'en 2020. C'est pas énorme, hein, quand même, hein, la distance là. En tout cas, il se souvient, lui, de s'être violemment opposé à son père, le réalisateur, pour qui la domination masculine était légitime. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il a quitté sa famille très jeune, c'est ce qu'il nous raconte, et qu'il a fait les films qu'il fait. C'est justement à cause de ça. Pour lui, La Bonne Épouse, c'est son film le plus libre, mais aussi peut-être le plus engagé, contrairement aux apparences. Alors, de toute façon, dans le film, il y a tous les marqueurs de l'époque, hein, où le film se situe. Il y a Adamo, il y a Joe Dassin, il y a Ménie Grégoire. Ménie Grégoire, ça c'est pour nous, Damien. C'était la radio. Guy Lux, Anne-Marie Pesson, etc., quoi. Le grand fossé entre Paris et la province. Paris incarnait le rêve absolu, la rapidité des transports et des moyens de consommation, de communication, hein, consommation aussi d'ailleurs, mais enfin, surtout de communication, ça a changé la donne en fait. Hein. D'ailleurs, on ne dit plus la province, mais maintenant on dit les régions. Fini la province, exit le mot province. C'est ça quand même. Hein. Voilà, alors là, et les acteurs? Eh ben oui, les acteurs. Alors Paulette, c'est Juliette Binoche. Oh, grande actrice, très grande actrice. Yolande Moreau, bien sûr, qui est une sorte de porte-bonheur pour Martin Provost d'ailleurs. Hein, Yolande Moreau, elle a beaucoup tourné avec lui. On a Noémie Lovski, on a Édouard Baird, Lili Taïeb, on a Armel aussi, François Berléand. Bref, c'est un casting superbe, sympathique. Écoutez, mes chéris, là, franchement, ça dure 1h49. Bon, bah, ça va, quoi. 1h49 de détente. Et surtout, 1h49 de jolis films avec de très, très, très grands acteurs. Voilà. C'est une comédie française et belge.
Ça s'appelle La Bonne Épouse et on écoute la bande-annonce.
Ah, merci Damien.
Mesdemoiselles, un peu de silence s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Rotation de chiffres, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête!
Au père! Il étouffe! Tape lui dans le dos!
24 ans de vie commune.
C'est quoi ça?
C'est des lacuissiers.
Je peux entrer?
Nous sommes ruinés.
Passez la seconde! La seconde!
Femme au volant, gare au tournant!
Tu vas pas t'y mettre, toi aussi!
Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école?
Si nous ouvrions un nouveau compte, à votre nom.
À vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non!
afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées.
Ma mère, elle dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes.
Les quoi ?
Féministes. C'est qui ?
Les femmes qui veulent être les égales des hommes.
Vous faites de nous des boniches, comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre.
Les mains en l'air, on se tire !
Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi.
Et si ça peut te rassurer, sache que je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine.
Tu sais faire la cuisine, toi ?
Voilà la bonne épouse donc, de Martin ouais. Provost.
L'étonnement, c'est la dernière phrase qui m'amuse. Comme, tu sais faire la cuisine, toi ?
Et ce film sort donc partout en France aujourd'hui et également dans votre cinéma de proximité, le cinéma Rex de la Réole, et il sera diffusé à 18h aujourd'hui même.
Et pourquoi tu cites ce cinéma-là ? Faut le rappeler quand même.
Car c'est notre partenaire.
Voilà, hein, que nos auditeurs sachent bien que c'est pas parce qu'on le préfère, mais simplement c'est notre partenaire. Si les autres cinémas veulent devenir notre partenaire, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, mes chéris, quand vous allez dans un cinéma proximité autre que celui de la Réole, ben, dites-leur à la caisse qui peuvent venir aussi à Radio Entre Deux Mers, hein, voilà, et devenir notre partenaire préféré. Vous pouvez leur dire, hein, en fait. Voilà. C'est fait. Bon. Ah ben après malheureusement oh ben avant de citer si j'aurais une autre comédie mais là pour l'instant j'ai mis de côté un drame bon c'est sur la famille, c'est un film allemand qui s'intitule D'égal à égal, trait d'union Auf Augenhöhe. C'est-à-dire que Auf Augenhöhe, c'est en allemand, ça veut dire d'égal à égal. Dans le titre, il y a les deux, en fait. Hein. Il y a le titre français et le titre allemand. C'est de Evi Goldbrunner, qui est un réalisateur scénariste. Non, une, pardon, excusez-moi. Evi, c'est un prénom féminin. Réalisatrice scénariste allemande, elle a 44 ans. Mais elle a aussi un autre, c'est une co-réalisation. Elle a donc son ami avec qui elle travaille, c'est Joachim Dolhoff, qui est un réalisateur scénariste allemand de 49 ans. Voilà, ils travaillent ensemble et ils font des choses pas mal du tout. C'est quoi ? C'est l'histoire de Michi, qui a 10 ans et qui vit dans un foyer pour enfants. Lorsqu'il découvre un jour une lettre de sa défunte mère à un dénommé Tom, Michi est persuadé qu'il s'agit de son père. Il se lance à la recherche de cet homme qu'il a espéré pendant des années. Mais quelle est sa déception lorsqu'il découvre que Tom est une personne de petite taille ? Le père qu'il voulait fort et protecteur est si petit, il est même plus petit que lui, et lui vaut les moqueries de ses congénères. Chacun devra surmonter la déception, la différence, pour bouleverser le regard et la réalité de l'autre. C'est une très 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 belle histoire. Les acteurs sont allemands. Non, il y a un Canadien. Tom. Le petit homme, justement, c'est un acteur canadien, c'est Jordan Prentice. Il est connu au Canada, hein, effectivement, il travaille beaucoup, et il fait aussi du théâtre, d'ailleurs. Et on a donc deux autres acteurs allemands dans les rôles principaux. Alors, Michi, c'est Louis Forbach, et il y a également Ella Frey. Ella Frey, elle est connue aussi en Allemagne, cette actrice. Donc voilà, ça dure 1h38. Moi, je trouvais que c'était une très, très belle histoire. Et je voulais pas que vous passiez à côté éventuellement, d'égal à égal, Auf Augenhöhe. Drame, voilà, allemand. Très, très joli. C'est une belle histoire. Je peux pas vous dire la fin, je la connais, mais je peux pas vous dire. Mais voilà, on peut dire que c'est une très jolie histoire. Ma foi. Alors ensuite, j'ai une comédie, justement. Une comédie belge. Eh ben oui, les Belges en ce moment. Ils sortent beaucoup au cinéma, les films belges. C'est une co-réalisation également de Thomas Ancora, qui est un acteur réalisateur scénariste belge. Il a 33 ans, lui. Et avec Grégory Beguin, qui est un acteur réalisateur scénariste belge de 34 ans. Alors, le casting est sympa et le film aussi. Ça s'appelle Losers, au pluriel. Hein. Losers, révolution. C'est quoi ça ? Ben, c'est l'histoire de Simon, Mehdi et Fred, trois amis d'enfance qui sont conviés à l'enterrement de Juan, un de leurs anciens camarades de classe. Il a eu une dernière volonté, Juan, ouais, que les garçons prennent leur vengeance à la réunion des anciens en balançant sur ceux qui les martyrisaient. Il faut qu'ils balancent sur ceux qui les martyrisaient ces cendres. Ouais, au début, j'ai cru que j'avais mal lu quand j'ai lu l'histoire, mais non, il faut qu'ils balancent les cendres de Juan sur les méchants. Et puis aussi, en fait, créer un mouvement de révolution des losers sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'ils doivent faire, balancer les cendres sur les affreux et créer un mouvement de révolution sur les réseaux sociaux. Aïe, 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 ça marche bien les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Hélas, quelquefois, hélas. Alors avec 30 followers, c'est-à-dire c'est des suiveurs, hein, les followers, si on ne connaît pas trop l'expression. En tout cas, il y en a 30. Il est bien compliqué de créer un buzz. Mais qui de mieux qu'Henri, petit frère de Simon, star de la télévision réalité ? Il s'occupe par exemple de The Real Alpha Belgia Boys of Bruxelles. Voilà, c'est comme ça. Ils sont 6 mannequins influenceurs dans leur quotidien et ils sont gourous des réseaux sociaux. Alors ce gars-là, effectivement le frère de Simon, Henri, est bien placé pour les aider à atteindre leur but, normalement. Si ce n'est qu'à un détail près, Henri et Simon se détestent. Ça existe, vous savez, les frères qui se détestent, c'est comme ça. Il a dû se passer des choses, on ne sait pas. En tout cas, Clément Manuel sera Simon, on a Thomas Ancora qui joue le rôle d'Henri. Alors Clément Manuel, c'est un acteur français. Thomas Ancora, donc, qui est aussi réalisateur, est un acteur belge, réalisateur belge. On a Cody Kim qui joue le rôle de Mehdi. Alors lui, c'est un acteur belge également. On a Baptiste Sournin qui joue le rôle de Fred, hein, qui est un acteur belge. Et on a Tania Garbarski, qui est une actrice belge dans les rôles principaux.
On a aussi Alex Vizorek.
Oui, tout à fait. Voilà. Et Clément Manuel, on le connaît, Clément Manuel. Quand on le voit, on l'a déjà vu. On sait qu'on l'a déjà vu. Si on a l'habitude de fréquenter les cinémas, on l'a vu. C'est un très bon acteur. C'est un bon casting. Je disais au début, hein, c'est un casting sympathique. Voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. Loser Révolution. Je ne sais pas s'il y avait une bande-annonce.
Oui, et on l'écoute.
Il a tout,
c'est
Damien.
C'est ainsi que Juan ne nous dit pas adieu, mais au revoir. Entouré de tous ses proches et des gens qui l'aiment.
Notre adolescence a vraiment été atroce. On va faire ce qu'on aurait dû faire depuis 15 ans, une révolution. Je veux que vous vous rendiez à la réunion des anciens élèves et que vous balanciez mes cendres sur ces sales cons. Je veux que vous filmiez, je veux que vous partagiez, je veux que le monde sache qu'il ne faut plus nous faire chier.
La réunion, elle est dans 2 semaines. On a quoi, 30 followers à nous 3 réunis?
C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'aide. Quelqu'un qui est dans le game, un proche, peut-être même de notre famille.
Ah, c'est votre frère. Il fait quoi?
C'est une bouse de télé-réalité où ils sont beaux et ils vont au sport.
On a qu'à demander à ton frère.
Vous avez des looks de merde, vous êtes normaux, vous êtes chiants. On va vous trouver des personnalités d'Instagrammables.
T'es sûr
Vous êtes parfait.
Y a encore des gens qui aiment le cirque ou bien c'est comme le plastique?
Apprenez à sortir vos bites sans prévenir. Et vos vies, elles vont changer.
C'était pas dans le scénario, ça! Qu'est-ce que vous avez foutu?
Fred! Métaphore, bordel!
Loser Révolution.
Oui, ça dure 1h29, au fait. Mais c'est quoi, effectivement, le loser? Toi, Damien, t'as une définition pour le mot loser?
Alors là, tu me prends de court.
C'est quoi le loser?
Le loser, c'est celui qui arrive à rien.
Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est pas du tout nous, quoi, en fait. Hein, c'est le contraire. Non. Je plaisante, mais c'est vrai que le loser, bon, c'est quelqu'un qui est pas, c'est pas Einstein, quoi. Hein? Ce serait plutôt l'inverse. Oui, c'est quelqu'un qui traîne et qui ne fait rien de formidable, quoi. Hein, à peu près ça. Loser Révolution. Alors évidemment, lancer un mouvement comme ça sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est quand même assez cruel. Ça ne doit pas être très agréable. Voilà, Loser Révolution. Franchement, mes chéris, si la bande-annonce vous a convaincu, vous pouvez vous détendre, hein, avec cette comédie. C'est pas un drame, hein. C'est vraiment une comédie belge, donc vous pouvez aller vous détendre. Peut-être que vous connaissez, vous avez connu peut-être ça, des gens qui vous martyrisaient à l'école, par exemple, qui vous faisaient plein de misère et quelques années après, vous pouvez vous venger sur les réseaux sociaux. Oui, bon, je suis pas tout à fait pour la vengeance, moi, quand même, franchement. Ouais. Moi, je me dis bof. Mais bon, hein, y en a pour qui c'est important de pouvoir se venger. Voilà. Enfin. Ensuite, j'avais une comédie dramatique brésilienne et française. Ça s'appelle « Trois étés ». C'est de Sandra Cogut. C'est une réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie. Elle est brésilienne. Elle a eu déjà pas mal de nominations. Elle est connue chez elle. Excusez-moi. Elle a 55 ans. Il y a très peu de films, en fait, qui sont parus en France, la concernant. Mais Trois étés, moi, je l'ai mis de côté parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors, c'est le synopsis. Chaque année, Edgar et Martha organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d'été, orchestrée par leur gouvernante, Mada, et les autres employés de la maison. Mais en Trois étés, tout va basculer. Alors que le monde de ses riches patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada, la gouvernante, se retrouve en charge de la propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d'une société néolibérale à bout de souffle, rongée par ses démons. Ah oui, c'est carrément... C'est pour ça que je le trouvais quand même assez intéressant. On a Gisèle Froese dans les rôles principaux, c'est Marla d'ailleurs, on a Ottavio Muller, c'est Edgar, le fameux Edgar à qui va arriver bien des misères financières, et Regina Casé qui joue le rôle de Mada, ce sont des acteurs brésiliens absolument connus chez eux, hein. Nous on connaît pas leur nom, moi je les connais pas trop non plus, j'ai pas trop vu de film avec eux. Mais en fait, c'est quand même, c'est plutôt le désir de Sandra Cogut, la réalisatrice, c'était de parler de la situation actuelle du Brésil, et notamment des nombreux événements politiques assez dramatiques qui ont secoué le pays. Elle dit d'ailleurs, on dit souvent qu'il y a quelques années, les Brésiliens savaient par cœur les noms de chaque joueur de football de l'équipe nationale. Maintenant, ce sont les noms des 11 juges de la Cour suprême que tout le monde connaît. Procès filmé et diffusion directe, arrestation spectaculaire, le pays s'est habitué à suivre les aléas politiques comme s'il s'agissait d'un feuilleton télévisé. Sauf que maintenant, ajoute-t-elle, cela se passe dans la réalité. Et oui, c'est ça. Elle a axé l'histoire sur des personnages dont personne ne se soucie. Dans les histoires sensationnelles qu'on entend tous les jours, ces personnages, dit-elle, sont des figurants ou alors sont carrément hors cadre. Invisible. Je me suis demandé, qu'advient-il de tous ces gens qui orbitent autour des riches et puissants quand la vie de ces derniers s'effondre ? Quelles sont les conséquences pour les domestiques lorsque leurs employeurs atterrissent en prison ? Eh oui, effectivement, on peut se poser la question. Alors, en fait, elle a voulu situer l'histoire de son film durant l'été, car il s'agit d'un moment où les tensions sont si aiguës et où tout semble plus délirant. Elle nous dit « La lumière est beaucoup trop vive, les sons trop forts, la chaleur souvent excessive et les tempêtes apocalyptiques ». Voilà pourquoi elle a situé, pour ces raisons importantes quand même. Puisque dans l'hémisphère sud, dit-elle, l'été a lieu en décembre et janvier, tout devient encore plus exacerbé. La dernière semaine de l'année, quand arrive Noël avec ses drames familiaux, ses joies et ses peines. Et puis le nouvel an qui vient juste après, avec ses promesses de changement et des jours meilleurs. C'est une période très particulière et cette exacerbation ne semblait pas faire écho... me semblait faire écho à l'intensité des crises successives que connaît le pays. Voilà, c'est le premier film dans lequel la plupart des personnages sont joués par des comédiens professionnels. D'habitude, cette réalisatrice travaille principalement avec des acteurs non professionnels, ou alors avec des castings mixtes, moitié professionnel, moitié non professionnel. Voilà. Donc là, elle a eu envie quand même d'avoir des professionnels parce que c'était pas évident. Les rôles ne sont pas faciles. Elle dit que les gens étaient très investis et les performances ont été surprenantes. malgré des conditions difficiles. Elle dit d'ailleurs aussi, c'est un truc un peu étrange, le plateau vibrait de rires et de larmes. Une expérience collective vraiment merveilleuse. Ça a dû être un tournage quand même assez extraordinaire, je pense. En tout cas, je le trouvais intéressant, 3 étés, ça dure 1h34. C'est brésilien et français, hein, je l'ai dit, je crois, au début. Donc voilà, ça m'a semblé tout à fait digne d'intérêt. 3 étés. Et puis, oh, j'avais un film fantastique aussi. Une sirène à Paris. Ah, c'est fantastique, c'est dramatique aussi, c'est français. Et c'est de Mathias Malzieux, qui est un acteur, réalisateur, compositeur. C'est lui qui a composé la musique du film, d'ailleurs. Il est français, il a 46 ans. On lui doit, en fait, par exemple, le film d'animation Jack et la mécanique du cœur, qui était sorti en 2014, qui avait eu plusieurs nominations, qui a très bien marché, d'ailleurs, son film. Alors, il est quoi ? Il est en même temps réalisateur, etc. Il est chanteur, il est musicien, il est écrivain.
Il est chanteur du groupe Dionysos.
Tout à fait ! J'allais juste le dire, merci Damien ! Oh là là, Damien, il sait tout plein de trucs ! Et je ne lui avais pas dit, je vous jure, hein, mes chéris, je ne lui avais pas dit. Mais j'allais le dire. J'allais dire qu'il faisait partie d'un groupe musical, Dionysos, qui a été créé en 1993. Et oui, c'est un groupe de rock français. Maintenant, on sait quels sont les goûts de Damien. On sait qu'il aime le rock maintenant, puisqu'il connaît le groupe. Ah, voilà, je note, je prends des notes. Alors, en fait, dans ce groupe, d'ailleurs, il y a des textes français et anglais. Et ça évoque quand même plutôt un univers surréaliste. Hein. Donc, il y aurait, je crois qu'il y a 6 membres, dont une femme, normalement.
Oui, qui est violoniste.
Voilà. Donc, merci Damien. C'est chouette ça. Alors, c'est quoi l'histoire ? Ben, c'est crooner au cœur brisé. Gaspard s'était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes en faisant s'emballer leur cœur jusqu'à l'explosion. Ouh ! Lorsque la scène en crue vient déposer Lula au pied du Flower Burger, qui est de la péniche cabaret où chante Gaspard, c'est un mini tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l'homme qui a souffert d'avoir trop aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à se connaître et à chanter d'une même voix. Alors on a, dans le rôle de Gaspard, on a quelqu'un qu'on aime beaucoup, un très grand comédien, Nicolas Duvauchel. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas assez souvent, Nicolas Duvauchel. Parce que dès qu'il est dans un film, en principe, il choisit très bien ses films. Donc, il ne joue pas dans des navets, Nicolas Duvauchel, on peut le dire. Ensuite, dans le rôle de Lula, on a Marilyn Nima. Elle est tout à fait charmante, cette actrice, cette comédienne. Très chouette dans son rôle. On a Rossi de Palma, on la connaît. Oh là là, Rossi de Palma, Roman Boringer et Che Kikario. Alexis Michalik, c'est un beau, beau, beau casting. Et alors, normalement, ce qui était prévu, c'était Reda Kateb et Clémence Poésy qui auraient dû jouer Gaspard et Lula. Et puis, en fait, il y a également Virginie Ledoyen et Eric Cantona qui devaient être de la partie. Alors, par contre, j'ai essayé de savoir pourquoi finalement ils ne sont pas dans le film. Pourquoi il y a eu des changements au dernier moment ? Alors, moi, j'ai pensé que c'était un problème d'emploi du temps, quand même. Hein. Parce que Reda Kateb tourne beaucoup. Clémence Poésy aussi. Virginie Ledoyen également. Éric Cantona, bon, ce sont des gens quand même qui jouent énormément, qui tournent beaucoup. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je n'ai pas trouvé, j'aurais voulu, parce que moi, je suis curieuse. Je voulais vous le dire, mes chéris, mais je pense que c'est uniquement un problème de travail. Ça dure 1h32 et je suis sûre que Damien va nous sortir la bande-annonce. Composée par Mathias Malzieu, la musique.
Sont ceux dont le pouvoir d'imagination est si puissant qu'ils sont capables de changer le monde.
And now, rien que pour vous et exclusivement au Flower Burger Boot, un homme qui ne font jamais, même au contact des plus belles femmes de Paris.
Oh. C'est magique ici.
Elle était bonne.
Non.
Moi, je veux pas que vous finissiez tout seul comme moi.
Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Je ressens plus rien maintenant.
L'amour, c'est fini pour moi. Toi, une femme te quitte. Tu t'interdis l'amour. T'as un problème avec l'échec.
Toi, t'as un problème avec le panache.
D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose.
Vous allez mourir, comme tous les autres.
Tous.
Tous. Vous avez mal au cœur?
Non, pas du tout, pas du tout. Picard, good quality.
Il va exploser ce cœur, et cette fois pour toujours.
Comment ça fait l'amour?
C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort.
Je suis tellement contente de vous faire aucun effet.
Dommage que vous partiez maintenant quand même, parce que moi j'étais immunisé. Et si vous restiez avec moi?
Non, c'est trop risqué.
Aidez-moi à m'enfuir, s'il vous plaît. Il ne doit plus me voir, sinon il va mourir.
Allez au putain!
Vous êtes complètement sous son emprise! Elle est en train de vous tuer!
T'as l'air d'un zombie là, tu rentres chez toi?
T'as déjà vu un zombie qui rentre se coucher? Toi.
Un film de poésie fantastique.
C'est une vraie sirène en plus, hein, qui a la queue de sirène et tout. Mais je sais pas, moi j'aimerais bien poser la question au réalisateur Mathieu Malzieu, parce que j'ai pensé à une métaphore, moi. L'amour fou peut tuer. L'amour fou peut tuer. Elle, c'est une histoire du cœur qui explose parce que bon, c'est dans le film et c'est fantastique. Mais ça peut être ça aussi. Que l'amour fou, trop fou, peut tuer quelqu'un. D'une façon ou d'une autre. Je pensais à ça aussi. Même chérie, vous y réfléchirez. Allez le voir si vous aimez tout ce qui est fantastique. Et une vraie sirène en plus, hein. Attention. Ah oui, oui, oui. Voilà, une sirène à Paris. Sacré film quand même. Après j'avais un drame aussi. Tunisien, Qatarien, Libanais, Français. Eh oui, tout le monde s'y est mis. C'est un film de Mehdi M. Barsaoui, qui est un réalisateur, assistant également. Il a déjà été assistant réalisateur. Il est monteur, il est scénariste. Il est franco-tunisien. Il a 35 ans. C'est son premier long métrage comme réalisateur seul. C'est-à-dire qu'avant, il était assistant. Et là, il a réalisé lui-même. Il a donc, il a eu deux prix. À la Biennale, le film hein, qui s'appelle Un fils, c'est le titre, a eu deux prix à la Biennale de Venise 2019. Prix du meilleur acteur. Alors, l'acteur principal, c'est Sami Bouajila. Donc, c'est prix du meilleur acteur pour lui. Et prix du jury œcuménique. Je le disais à l'envers. Voilà, c'est donc un film qui est réussi. C'est l'histoire de Fares. Fares et Sami Bouajila, justement. On est content de le retrouver, Sami Bouajila. Hein. C'est un grand acteur. Donc, Fares et Meriem. Meriem, c'est Nella Ben Abdallah. Elle est ravissante, d'ailleurs. Et Youssef Khemiri. Donc, je repars sur le synopsis. Donc, ce couple forme avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne, issue d'un milieu privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé. Alors c'est terrible parce que c'est un joli film, mais en même temps, bon, c'est un drame, hein, c'est un vrai drame, il n'y a pas de doute. Et c'est titré « Premier film saisissant, un récit haletant et bouleversant ». Et c'est titré encore « Magnifique ». Alors c'est vrai que c'est la scène d'ouverture par exemple est très révélatrice. Le film démarre sur une scène qui montre la complicité entre Fares, c'est-à-dire joué par Sami Bouajila, et son fils Aziz, qui est joué par Youssef Khemiri. Elle ne dévoile rien de la suite, mais expose leur relation fusionnelle. Alors, le réalisateur a voulu commencer son film de cette manière pour montrer à quel point le lien unissant le père et le fils est fort. L'idée de l'enfant qui tient le volant était aussi symbolique, nous dit-il. Il tient les rênes et c'est lui qui va nous plonger dans le passé de la famille. C'est quand même... Alors, le film se déroule en 2011. Oui, une année qui a été charnière sur les plans politiques et sociaux en Tunisie, et plus précisément en août et en septembre, 7 mois après la Révolution. En optant pour ce cadre spatio-temporel, le réalisateur a pu ajouter un contexte social et historique à l'histoire de son film. Par exemple, il nous dit « Au départ, je n'avais pas la prétention de vouloir parler de la Révolution. Je n'en avais ni les connaissances nécessaires, ni les moyens. Je ne suis ni historien, ni politologue. Ce qui m'intéressait, c'était les répercussions que la vie politique pouvait avoir sur une famille d'allure classique. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire se déroule quelques mois après la chute de Ben Ali et quelques semaines avant celle de Kadhafi, exécutée en octobre. Des grands changements ont eu lieu dans cette partie du monde et je voulais que mes personnages évoluent à cette période précise. Et à la fois, je ne voulais pas trop pousser cet aspect-là. » Et oui, on se souvient hein, quand même, l'année 2011, ça a été terrible, non ? C'est vrai que, oui, là, on était en plein drame. Alors, en fait, le réalisateur, là, Mehdi M. Barsaoui, s'est beaucoup interrogé sur la question de la filiation et des liens de sang après le divorce de ses parents, alors qu'il était encore très jeune. D'où la volonté de faire un drame centré sur ces questions. Et quand j'ai grandi, nous dit-il, j'ai commencé à réfléchir à ces liens du sang qui tient les membres d'une famille. Comment définit-on un parent ? En quoi consiste la parentalité ? Est-ce que la reproduction génétique fait de nous un parent ? Alors ces questions, effectivement, ont pu être à l'origine de ce scénario. Voilà, donc le réalisateur a grandi en Tunisie. Hein, donc il a réalisé déjà 3 courts-métrages qui ont très très bien marché. Il a une carrière internationale d'ailleurs, hein, qui débute avec ce film entre autres. C'est vraiment le premier vrai long métrage hein, qui a été sélectionné. Hein. J'ai dit les prix tout à l'heure, les prix à Venise et le prix du meilleur acteur. Il a opté pour une mise en scène assez sobre. Il a cherché à refléter la réalité en évitant d'avoir recours à des artifices. Ça, c'est important parce qu'on le ressent dans le film, effectivement. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas dans le film de plans réalisés avec des grues et autres mouvements de balayage de caméra. Il voulait une caméra à l'épaule. C'est drôle, chaque fois que je parle de ça, moi, d'une caméra à l'épaule, je pense à Claude Lelouch, parce qu'il a toujours filmé comme ça. C'est drôle, c'est la référence en France hein, pour filmer caméra à l'épaule. En fait, ce qu'il voulait, lui, c'est courir avec eux, avec les personnages du film, et ressentir et pouvoir faire ressentir et ressentir leur douleur. Et oui, c'est sûr que la scène des terroristes qui les attaquent est terrible. Hein. C'est une scène courte et violente, très violente. Voilà, c'est un fils. Bon, si vous vous sentez touché par ce genre d'histoire, et je crois que tout le monde est plus ou moins quand même touché par ce genre d'histoire, finalement. Surtout quand on se souvient de tout ce qui s'est passé en 2011, l'histoire de Kadhafi et tout ça. C'est donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. 1h36, un fils. Puis peut-être vous avez connu, vous, des gens à qui c'est arrivé, hein, malheureusement. Et puis, j'avais aussi, c'est un biopic, c'est un peu romancé, c'est un peu dramatique, c'est britannique. Ça s'appelle Radioactive. Or, je me suis dit au début, qu'est-ce que c'est que ce titre, Radioactive ? Eh bien, quand j'ai vu le nom de la réalisatrice, j'ai compris, quoi. C'est Marjane Satrapi, la grande réalisatrice. Elle est scénariste, elle est iranienne. Elle a 50 ans. Elle a déjà eu, on reste assis, hein, 14 prix, 53 nominations. Voilà, hein, on n'est pas. Donc, en fait, on l'a découverte en France. Je pense qu'on l'a découverte surtout en 2007 avec Persepolis, qui est un très très grand film.
Tout à fait, oui.
D'animation, hein. Qu'est-ce que tu... Oui, Damien, tu voulais me dire ?
Je disais tout à fait.
Ah oui, hein. Persepolis, bien sûr. Et on ne l'a pas oublié, ce film. Hein. Je pense qu'il est resté dans la tête d'un peu tout le monde. Et c'est vraiment... il avait eu 12 prix, 28 nominations déjà quand même. Ça se passait à Téhéran dans les années 78 et à Vienne dans les années 84. Hein. Il y avait les deux Persepolis, et ouais. Oula ! C'était quand même... Et puis aussi, en 2015, elle avait réalisé The Voices. The Voices, c'était terrifiant et à mourir de rire. Il y avait les deux en même temps. Pareil, hein, des prix, des nominations. Avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. C'était aussi pas mal du tout. Et là, c'est quoi Radioactive ? Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses idées et découvertes. Vous allez comprendre de qui on parle bientôt. Au sein d'une société dominée par les hommes. Et c'est qui cette Marie ? Eh bien, c'est l'épouse de Pierre Curie. Parce que avec Pierre Curie, nous dit le synopsis, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux justement, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments, le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne. Alors on a, dans les rôles principaux, on a Rosamund Pike. Elle est extraordinaire dans ce rôle de Marie Curie. Vraiment. Rosamund, ah oui, étonnante, étonnante. On a Sam Riley qui joue le rôle de Pierre Curie. On a Amerin Barnard, Simon Russell Beale, on a Jonathan Harris. Alors Jonathan Harris, on va le voir, je crois que j'ai mis de côté un autre film dans lequel il joue également, Jonathan Harris. On va le voir tout à l'heure, là. C'est un thriller. Je crois que c'était la science-fiction aussi. Donc, on va le revoir, cet homme-là. Alors, Pierre Curie, il est né en 1859 et il est mort en 1906 à l'âge de 47 ans. C'est terrible. C'est un accident complètement stupide, d'ailleurs. Le 19 avril 1906, Pierre Curie sort d'une réunion pour se rendre quai des Grands Augustins. Arrivé à l'angle de la rue Dauphine, à Paris, on est à Paris, il veut traverser la chaussée, mais il court pour éviter un fiacre et se heurte au cheval de gauche d'un camion hippomobile qui arrive en sens inverse, chargé de 4 tonnes d'effets militaires. Il glisse sur le macadam mouillé et tombe devant le camion dont le conducteur Louis Manin ne peut arrêter ses chevaux malgré tous ses efforts. Pierre Curie est blessé mortellement à la tête par une roue arrière du camion. Il sera inhumé le surlendemain à Sceaux dans l'intimité familiale. Le seul personnage officiel qui sera là présent sera le ministre de l'Instruction publique, Aristide Briand, qui a été d'ailleurs en 1926 prix Nobel de la paix, je rappelle, pour Aristide Briand. Voilà comment c'est arrivé cette histoire. Mais on dirait maintenant que c'est bête comme chou. C'est vraiment un accident, mais incroyablement... bête pour cet homme, enfin c'est terrible, terrible. Marie Curie a mis énormément de temps à s'en remettre, ça a été très très dur pour elle. Alors elle est née en 1867 et elle est décédée à 67 ans, en 1934. Elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de physique en 1903. Et à ce jour, c'est la seule femme à en avoir reçu deux, le deuxième étant le prix Nobel de chimie en 1911. Et c'est la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts, c'est-à-dire la physique et la chimie. Elle est également la première femme lauréate en 1903, avec son mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium. Elle décède, en fait, quand elle est décédée, le 29 juin 1934, elle est décédée du suite d'une leucémie radio-induite qui a déclenché une anémie aphasique, c'est une atteinte de la moelle épinière. En fait, c'est l'exposition à la radioactivité qui l'a tuée finalement. C'est ce qu'on peut dire. Ils ont eu deux filles, Irène Joliot-Curie, qui est décédée à 59 ans en 1956, chimiste, physicienne, femme politique, prix Nobel de chimie en 1935, avec son époux Frédéric Joliot-Curie, qui était un physicien chimiste également, décédé en 1958, très peu de temps après elle, 2 ans après. Et puis il y a eu F. Curie aussi, qui a écrit une biographie mondialement connue de sa mère. Elle a épousé Henri Labouisse, directeur exécutif de l'UNICEF. C'était un Américain, lui. Il a reçu le prix Nobel de la paix attribué à cette organisation en 1965. C'était un juriste, un diplomate américain. Lui, il est mort en 1987 à 83 ans. Et elle, Ève Curie, elle est décédée à 103 ans. C'est la seule vraiment dans cette famille qui a réellement vécu très très longtemps. C'était quand même une sacrée famille, il faut le dire. Et je suis ravie en tout cas, mes chéris, que Marjane Satrapi se soit penchée sur cette radioactivité. Donc ça s'appelle Radioactive. Ça dure 1h50 et je suis sûre que Damien nous a concocté une bande-annonce. Merci.
J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique.
Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément.
Vous croyez avoir découvert un nouvel élément ?
La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate.
Veuillez quitter mon laboratoire.
Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Notre découverte pourrait soigner le cancer.
C'est extraordinaire. Tu as changé le monde. Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait état que de mon nom.
Tu as volé mon génie. Comment oses-tu t'attribuer leur ovation ?
Tout ça est plus important que nous.
Tout ce qui m'intéressait, c'était la science.
Il y en a qui disent que mon radium les rend malades.
On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature.
J'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre l'impossible. C'est mon combat. Et je le remporterai.
Radioactive, donc, de Marjane Satrapi.
Oui, qui est déjà une grande réalisatrice, qui parle d'un personnage extraordinaire. Moi, je vais vous faire un aveu. Marie Curie fait partie de la liste des gens pour qui j'ai énormément d'admiration. J'ai même une petite photo d'elle chez moi, dans mon bureau. Comme ça, chaque fois que j'ouvre le bureau, je la vois. Et oui, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Et oui. Marie Curie. Bon, ben merci à Marjane Satrapi, en tout cas, de s'intéresser à cette extraordinaire personne qui a fait beaucoup avancer, quand même, la physique et la chimie. Et puis, ah ben voilà, je disais tout à l'heure, oui, j'avais mis de côté un thriller science-fiction, ça s'appelle Vivarium, c'est belge, c'est irlandais, c'est américain. Ouais, encore belge, hein. Quand je dis que le cinéma belge en ce moment, ouh, ça remue. T'as remarqué, Damien, hein, le cinéma belge ? Oui, mais c'est pareil, hein, ils s'en sortent bien, je trouve, au cinéma. Alors, c'est de Lorcan Finnegan, ou Finnegan, je pense, d'ailleurs. C'est un Irlandais, hein, réalisateur, producteur délégué irlandais. Il a déjà eu, ah ben, son, il a déjà eu, alors son prix, son film, pardon, Vivarium, a reçu 2 prix et 8 nominations, le prix de la Fondation Gann à la diffusion. Et il a eu donc toutes ses nominations à la Semaine internationale de la critique 2019. Il a 40 ans, donc voilà, il s'en sort plutôt bien. Il y a un avertissement, hein, je le dis tout de suite, pour ne pas oublier, les scènes, les propos et les images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Il n'y a pas d'interdiction, simplement, on est devant le fait que ça peut heurter la sensibilité des spectateurs. Après, c'est à nous de voir, n'est-ce pas, chers auditeurs ? À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. C'est terrible, effectivement. La vision du lotissement, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, ouf ! Alors, on a Jess Eisenberg. C'est un acteur, Jessie, je ne sais pas pourquoi je dis Jess, c'est Jessie Eisenberg, américain. On a une actrice britannique, Imogen Poots, dans les rôles principaux, là. Et alors, Jonathan Harris, dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il est dans Radioactive. Et là, il est également, il est dans ce film, dans Vivarium. Bon, bah, c'était son année, Jonathan Harris. Voilà, acteur britannique. Alors, avoir un métier sympa, être en couple, acheter une maison dans un joli lotissement, découvrir son nouveau quartier, bienvenue en enfer, vivez heureux pour l'éternité. Et voilà, c'est quand même... Alors, par exemple, il y a un truc, à un moment donné dans le film, ils ouvrent un carton, et dedans, ils trouvent un bébé et un mot qui dit... élevez cet enfant et vous serez libre. Alors là, déjà, ça donne une idée du film qui est quand même assez terrible. Mais c'est surtout la vision du lotissement. Je crois qu'après, on n'a plus du tout envie de vivre dans un lotissement, mes chéris, quand on voit celui-ci. Ça, j'ai dit 1h38, oui, je sais pas, je l'avais dit. Voilà, alors si vous aimez évidemment frissonner, si vous aimez les thrillers voilà, et la science-fiction, bien sûr, bah il est pour vous, hein, Vivarium, hein, tout à fait, absolument. Moi, je sais pas, j'hésite un peu, parce que la vue du lotissement m'a quand même fait fichu la trouille. Je sais pas, Vivarium. En tout cas, je voulais en parler parce qu'il est bien fait. Voilà, c'est un film qui fait peur, mais qui est bien fait. Et puis, il y avait un documentaire français et congolais, qui m'a alerté. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ça s'appelle Congo. C'est une co-réalisation d'Adrien Lavapeur, directeur photographie, monteur, producteur délégué français. Voilà, il a 35 ans. Et Corto Vaclav, qui est ingénieur du son, monteur, producteur délégué français, réalisateur tous les deux, bien sûr. 32 ans. Alors, le film a une nomination à l'Acide, Cannes 2019, dans la série long métrage Acide, hein, Association du cinéma indépendant, pour sa diffusion. Donc, c'est quoi? Ben, ça se passe à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Alors, le Congo, on le resitue, hein, en Afrique centrale. Voilà, bon. Un monde invisible régit le monde visible. L'apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts, mais sa vie bascule lorsqu'on l'accuse publiquement de pratiquer la magie noire. Ça dure 1h10 et franchement, c'est un documentaire quand même qui est pas banal du tout. Essayez de le choper parce que il vaut la peine quand même, hein, vraiment. Je pense qu'il y avait une bande-annonce. Damien, il a tout là-bas, il a tout. Merci.
Big Beko Bengolo. Ah. J'ai envie de l'ombre la.
Quand je les invoque, ils arrivent. Nos ancêtres sont nos vrais dieux. Nos morts ne sont pas morts.
C'est du jamais vu. C'est comme un cauchemar. Apôtre Jean Médard.
Est-ce que c'est toi le coupable de cette foudre? Je ne fais pas de magie noire. Moi, je libère les âmes, je ne tue pas les gens.
Vous avez le plein droit de porter plainte à ce pasteur-là.
S'il me retire ma licence de guérisseur, je suis fichu. Les seuls esprits qui peuvent me venir en aide, ce sont les sirènes, les reines des eaux. Voilà donc la bande-annonce de Congo,
oui.
Qui j'ai traduit parce que c'était sous-titré.
Oui, merci pour la traduction simultanée.
C'était sous-titré et du coup voilà, une partie en français mais une partie en congolais,
oui.
Ou dans le dialecte local.
Tout à fait. Bah, tu vois, tu as fait exactement ce que font les interprètes quand ils font des traductions simultanées. Bravo. Merci, Damien. Mais je pensais que tu allais le faire parce que je savais qu'il y avait une partie, effectivement, qui était un peu... effectivement, à la radio, c'est un peu embêtant. On voit pas l'image, mais on entend le son. Et donc, voilà, mes chéris, hein, belle traduction. Et puis voilà, je vous rappelle que c'est un documentaire, hein, c'est pas des acteurs avec une histoire, hein, c'est la vérité, c'est un truc vrai, quoi, qui existe là-bas. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a eu des prix et qu'il a plu à sa sortie, en tout cas. Et puis bon, pour finir, j'avais une version restaurée d'un très beau film qui s'appelle Les Lèvres Rouges, qui était sorti, oh là là, il est sorti il y a déjà, il y a 30 ans, je crois, une trentaine d'années, de Harry Kummel. Alors, c'est fantastique, c'est de la romance, c'est belge, français, allemand. Et l'actrice principale s'appelait Delphine Seyrig. Je dis « s'appelait » parce que malheureusement, elle nous a quittés il y a très longtemps. Elle n'était pas très âgée non plus, d'ailleurs. Et puis il y avait John Carlen aussi, qui est un acteur américain. Ça se passait, à Ostende, en Belgique. Valérie et Stéphane rencontrent deux ténébreuses créatures de la nuit. Il y a des meurtres dans la région. Tout ce petit monde est fasciné, fascinant. Voilà, ça dure 1h36 et c'est un très très beau film. Bon, moi je l'ai en DVD depuis pas mal de temps, effectivement. Mais là, c'est la version restaurée. Très, très, vraiment, ça vaut la peine. En tout cas, si vous étiez, ou si vous connaissez Delphine Seyrig, si vous êtes fan de cette actrice, enfin, si vous aimiez son travail, le film vaut rien que pour elle, quoi. Son film, le plus grand film qu'il a fait connaître, c'était l'année dernière à Marienbad. C'est un film qui, à sa sortie, a fait beaucoup de bruit et a tourné énormément. C'était un très beau film et c'est comme ça qu'on a fait sa connaissance, en réalité, Delphine Seyrig. Voilà, ma foi.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anne.
Mais la prochaine fois que j'ai un film congolais, voilà, je prendrai quand même, je te demanderai la bande-annonce et tu pourras faire ta traduction.
Il n'y a pas de problème.
Je m'en souviendrai.
Super en service.
Voilà. Ça rend service à nos auditeurs surtout. Les pauvres, là, ils n'avaient qu'un son quand même un peu particulier. Voilà. Bon, en attendant, en tout cas, n'oubliez pas d'aller au cinéma, dans les salles de proximité. Chaque fois que vous pouvez, vous savez que nous, à Radio Entre deux Mers, on les soutient, on les aime, ces salles-là, et on veut qu'elles restent ouvertes, absolument. Ne serait-ce que pour vous. Bien sûr, parce que vous les avez à côté et que les prix sont nettement moins élevés que dans les autres cinémas. À vous de voir. Voilà. Bon, écoutez, faites attention à vous. Hein. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Faut se laver les mains, faut ci, faut ça. Faut faire très attention. Voilà. Mais faut pas non plus être envahi complètement, continuer à vivre normalement, à vivre bien. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.